VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui. Au sommaire de cette édition du jeudi 1er juin 2023, au Sénégal, des violences ont éclaté dans différents quartiers de Dakar et dans d'autres villes après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.
Un bus et l'amphithéâtre de l'école de journalisme ont été brûlés. Les affrontements se poursuivent actuellement entre les étudiants et les policiers sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar.
Reportage de notre correspondant à suivre tout à l'heure. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le mandat de la force régionale chargée de lutter contre les violences est prolongé jusqu'en septembre. Au Soudan, les exactions se multiplient et Washington annonce des sanctions. Et ici même aux États-Unis, l'accord sur la dette approuvé par la Chambre des représentants est attendu au Sénat. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. De violentes manifestations ont éclaté aujourd'hui à Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ce qui remet en cause sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Nous avons en direct de la capitale sénégalaise notre correspondant Seydina Bagay. Bonjour Seydina.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Seydina, des jeunes ont attaqué des biens publics en plusieurs points de la capitale. Pouvez-vous nous faire le point des dégâts sur place maintenant?
C'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar que les hostilités ont commencé parce que, comme vous le savez, dans le milieu universitaire, il y a souvent les mouvements étudiantins des différents partis et aujourd'hui, les affrontements ont commencé entre les militants d'Ousmane Sonko qui sont à l'université de Dakar et ceux du président Macky Sall. On a d'ailleurs noté plusieurs blessés, dont certains graves. À un moment donné, d'ailleurs, les étudiants avaient annoncé 2 morts, mais la direction du campus social l'a démenti. Après ces affrontements entre étudiants, se sont propagés au campus universitaire. Une partie de la faculté de droit a été brûlée, l'autre partie saccagée. Des bus ont été incendiés à la bibliothèque universitaire. Le CESTI, où sont formés la majorité des journalistes sénégalais et beaucoup de journalistes africains francophones, a été brûlé. Le nouvel amphithéâtre de l'école brûlé, les bus, les voitures de l'école brûlées, la faculté des sciences pareil. Et après cela, les violences se sont étendues sur la grande avenue Cheikh Anta Diop, entre les étudiants cette fois-ci, et la police qui est présente sur les lieux en grand nombre avec des blindés et autres véhicules d'intervention. Des affrontements sont aussi notés à Cité Kër Gorgui, là où habite Ousmane Sonko, et là où il est victime de blocus de la part des forces de l'ordre depuis lundi et son retour à Dakar. Il y a de violents affrontements là-bas.
Alors, on signale, Seydina, qu'il y a des manifestations dans d'autres villes du Sénégal. Qu'est-ce que l'on sait à ce stade sur les autres localités?
Justement, j'y viens. Je disais qu'au-delà de ce quartier où habite Ousmane Sonko et de l'université, plusieurs grandes zones de la banlieue de Dakar sont en feu, ainsi que plusieurs localités du pays. À Ziguinchor, où habite Ousmane Sonko et où il est le maire, il y a eu des affrontements. Là-bas aussi, il y a des morts qui sont annoncées. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de confirmation officielle de ces morts-là, parce que les autorités sanitaires ne se sont pas encore prononcés officiellement, mais retenez seulement qu'à Dakar, à Ziguinchor, à Thiès et dans plusieurs localités, même dans le nord, à Richard Toll, il y a de violentes manifestations, des stations d'essence sont brûlées, des édifices publics sont brûlés ou saccagés également, pratiquement sur toute l'étendue du territoire national.
Alors vous en avez un peu parlé, Seydina. Comment s'est articulée la réaction des forces de l'ordre face à cette poussée des jeunes Sénégalais?
Il faut dire que les forces de l'ordre sont en alerte depuis plusieurs jours et ils occupaient les points stratégiques de la capitale et de plusieurs localités à l'intérieur du pays. Mais la sortie des jeunes a été tellement spontanée et ils sont tellement nombreux dans plusieurs zones que les forces de défense et de sécurité paraissent dépassées par moment. Il y a certaines localités comme Pikine dans la banlieue de Dakar où ils ont été obligés de battre en retraite parce que la foule était plus nombreuse. À Mbour, dans la zone balnéaire la plus importante du Sénégal également, de grands magasins, de grandes enseignes ont été incendiés et la police a également battu en retraite là-bas pour dire juste que le mouvement de foule est assez important et certes certains le comparent d'ailleurs aux événements de mars 2021 qui avaient causé la mort d'une quinzaine de personnes.
Alors, Cédine, on vous retrouve à 18h30 pour la deuxième édition de ce soir, mais vous serez avec nous à la fin de ce journal pour parler du procès lui-même. Cela dit, la décision de la justice sénégalaise maintient la menace sur l'éligibilité de M. Sonko et sur sa faculté à concourir à la présidentielle de l'année prochaine. Les implications immédiates de cette décision et une éventuelle arrestation de M. Sonko sont incertaines. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur une éventuelle l'arrestation. Je vous propose à présent la réaction d'Aminata Touré, dite Mimi, ancienne première ministre du président Macky Sall.
Aujourd'hui, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné, comme vous avez suivi, à 2 ans de prison ferme, ce que je trouve totalement injuste. Si les deux chefs d'accusation ont été écartés par le juge, on s'attendait évidemment à un acquittement pur et simple. Mais tout cela s'inscrit dans une stratégie plus large. Évidemment, ça c'était un aspect très très important. Le président Macky Sall envisage un troisième mandat, illégal bien sûr, puisque la constitution sénégalaise est très très claire. En son article 27, elle stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le président Macky Sall, lors du référendum de 2016, l'a clairement expliqué aux populations, aux journalistes, en langue nationale, en langue officielle, à tout le monde. Donc c'est très très clair. Mais entre-temps, il a changé d'avis et tous ceux qui se mettent en travers de sa voie sont éliminés. C'est dans ce sens-là que moi, je perçois, disons, ce verdict. Moi-même qui ai dirigé sa liste, la liste de Benno Bokoyakar du président Macky Sall, il y a moins d'un mois, parce que j'étais contre justement ce troisième mandat, j'ai été illégalement expulsé de l'Assemblée nationale. Il en est de même pour tous ces jeunes manifestants. Ils sont à peu près 500 aujourd'hui dans les prisons. Les journalistes eux-mêmes n'échappent pas justement à cette régression. Nous n'avons jamais eu autant de journalistes emprisonnés pour des faits d'opinion que ces derniers mois. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toute cette jeunesse qui est dehors. Au moment où je vous parle, c'est des incendies partout, c'est des affrontements partout dans la capitale, dans les villes secondaires, parce qu'évidemment, l'injustice, c'est jeune et c'est moins jeune, personne ne peut l'accepter. Nous-mêmes qui sommes membres de la plateforme des forces vives, nous nous sommes organisés autour du combat contre le troisième mandat, contre l'élimination des candidats, pour la libération des détenus et pour l'organisation d'élections libres et transparentes. F24, nous avions prévu de démarrer un dialogue avec le peuple.
Aminata Touré, dite Mimi, ancienne première ministre du Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Dans le reste de l'actualité africaine, dans le nord du Burkina Faso, 2 civils et 50 terroristes ont été tués mercredi lors d'une embuscade complexe contre l'escorte militaire d'un convoi de vivres, a annoncé ce jeudi l'état-major des armées burkinabè dans un communiqué. Les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont annoncé avoir prolongé jusqu'à septembre le mandat de leurs forces militaires chargées de réduire les violences dans l'est de la République démocratique du Congo et critiqué par Kinshasa, les précisions de John Lindon.
Cette force composée de soldats kényans, ougandais, burundais et sud-soudanais a été déployée graduellement depuis novembre dernier dans cette région en proie à de nombreux groupes armés. Son avenir a été en jeu depuis que le président Félix Tshisekedi a déclaré début mai que cette force est-africaine pourrait être invitée à quitter le pays fin juin, à peine 3 mois après son déploiement complet. La mission de la force régionale n'est pas remplie, avait-il estimé, en dénonçant sa complaisance avec les rebelles du M23. Mais mercredi, lors d'un sommet organisé au Burundi, les 7 pays d'Afrique de l'Est ont convenu de maintenir les troupes au moins jusqu'au 8 septembre pour consolider les progrès faits sur le terrain, selon un communiqué de l'organisation.
Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions économiques et des restrictions de visa contre les acteurs qui entretiennent la violence au Soudan. Une 20aine de civils ont été tués dans des bombardements sur un marché de Khartoum. Dernier épisode meurtrier d'une guerre qui ne connaît pas de répit. Ce jeudi, après le retrait de l'armée, des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Alexandrine Ollognon.
Des tirs d'artillerie lourde ont été signalés dans la banlieue nord de Khartoum. Les scènes de pillage se multiplient. Le comité de résistance qui organise l'entraide entre les habitants du quartier dénonce une situation catastrophique et lance un appel urgent pour des médecins et des dons de sang. L'armée a bombardé des bases des FSR à Khartoum après son retrait des négociations sur un cessez-le-feu à Jeddah. Depuis le début des combats le 15 avril, les deux généraux ont accepté une dizaine de trêves avant de les violer aussitôt. Les États-Unis, qui supervisaient depuis près d'un mois avec l'Arabie saoudite les discussions entre les deux camps, ont dénoncé jeudi de graves violations et annoncé des sanctions économiques et des restrictions de visa contre les acteurs. Les combats ont déjà fait plus de 1800 morts selon l'ONG Acled et plus d'un million de déplacés. Le nombre de Soudanais ayant fui au Tchad voisin a dépassé les 100 000 selon le HCR, qui réclame un soutien financier d'urgence.
Le nombre de Soudanais ayant fui au Tchad voisin, le conflit qui ensanglante leur pays depuis un mois et demi, a dépassé les 100 000. Salam aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui réclame un soutien financier d'urgence. On estime que jusqu'à 200 000 personnes de plus pourraient être forcées de fuir vers le Tchad dans les trois mois à venir, prévient dans un communiqué Laura Lo Castro, la représentante du HCR au Tchad. Une cour d'appel a confirmé ce jeudi la condamnation à 20 ans de prison d'Aliou Kossia, un ancien chef de guerre libérien, est retenu pour la première fois l'accusation de crime contre l'humanité. La cour d'appel du tribunal pénal fédéral a décidé de retenir l'accusation, cette accusation qui avait été ajoutée par le ministère public et les parties plaignantes pour le procès en appel en début d'année. La défense, qui conteste tous les griefs, demandait l'acquittement. Le Zimbabwe adopte une loi patriotique jugée liberticide par l'opposition. La loi adoptée criminalise le fait de porter volontairement atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national, vivement dénoncé dans la nuit de mercredi à jeudi par l'opposition comme un bâillon supplémentaire imposé par un pouvoir autoritaire. Le Parlement zimbabwéen a adopté ce projet de loi dit patriotique mercredi soir, à moins de trois mois de l'élection présidentielle et des législatives, dont le pouvoir a annoncé le même jour qu'elle se tiendrait le 23 août. Deux députés pro-démocratie dans la dernière monarchie absolue d'Afrique, Eswatini, ont été reconnus coupables aujourd'hui par la justice de terrorisme et meurtre en lien avec la vague de manifestations anti-régime qui avait secoué le pays en 2021. Les deux hommes, Madouzouzi, Bassédé Mabouza et Mandeni Doubé, ont été jugés presque deux ans après leur arrestation en juillet 2021 par un tribunal de la capitale Mbabane. Accusés d'avoir incité à manifester, ils avaient plaidé non coupables. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Leur peine sera prononcée à une date à déterminer, a dit le juge. Tunisie, des dizaines de magistrats, avocats et militants de la société civile ont protesté aujourd'hui à Tunis contre la révocation, il y a un an, par le président Kais Saied, de plus de 50 juges dénonçant la mainmise du pouvoir sur la justice. Un poète emprisonné en Égypte pour avoir écrit une chanson satirique sur le président Abdel Fattah al-Sissi et l'armée a cessé de boire après avoir arrêté de s'alimenter pour réclamer sa libération, rapporte aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme. Et puis ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants ont adopté à une très large majorité le texte visant à relever le plafond de la dette. Cela éloigne ainsi un peu plus le spectre d'un défaut des États-Unis sur la dette. Yacouba Ouedraogo.
Le projet de loi suspend le plafond de la dette jusqu'en 2025, soit après les élections présidentielles de novembre 2024. Il prévoit aussi une baisse de 10 milliards de dollars des fonds alloués aux services fiscaux pour se moderniser et renforcer les contrôles. Le compromis augmente de 49 à 54 ans l'âge auquel les adultes sans enfants doivent travailler pour recevoir une assistance alimentaire. Mais il élimine cette obligation de travailler pour les anciens combattants et les sans-abri. Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que l'accord prévoit le recouvrement de milliards de dollars de fonds COVID non dépensés pendant la pandémie. Dans un communiqué, le président Joe Biden a qualifié le vote de pas en avant pour prévenir un défaut de paiement. Le texte doit permettre d'éviter que les caisses du pays se retrouvent à sec lundi prochain. Il doit maintenant être adopté par le Sénat. Le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, a assuré qu'il le soumettrait aussi vite que possible pour éviter le défaut de paiement.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé aujourd'hui à Oslo un déplacement à Ankara dans un proche avenir à l'invitation du président turc pour tenter de lever les derniers obstacles à l'adhésion de la Suède.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, un tribunal criminel de Dakar a condamné aujourd'hui l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La justice l'a acquitté des accusations de viol et menaces de mort dans un climat de vive tension. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Un complot d'État. C'est ainsi que les avocats de Ousmane Sonko qualifient ce procès qui, d'après eux, n'a qu'une finalité, empêcher l'opposant d'être candidat à la présidentielle de 2024. Des faits qui ont conduit le Sénégal dans une situation inédite, d'après Maître Siré Kélédorli, avocat de Ousmane Sonko.
C'est clair que le complot d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi rentre et reste toujours dans ce complot d'État. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. Il y a plus de 2 ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on. Sans compter qu'il peut y avoir des morts qui ne soient pas encore listés. Et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées, la liberté d'opinion confisquée et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations.
Du côté des avocats de la victime, la décision de la chambre criminelle n'a pas répondu à toutes les attentes, comme le confie Maître El Hadj Diouf, avocat d'Adjissar.
C'est une satisfaction pour les avocats d'Adjissar, mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé.
Le viol n'a pas été retenu.
La corruption de la jeunesse a été retenue. C'est tout comme. Parce que quand on abuse de la jeunesse d'une fille pour coucher avec elle, c'est presque un viol.
Le verdict n'a pas sonné la fin de la bataille des avocats, car chacun continue à réclamer la vérité des faits. Dans certaines rues de Dakar et dans certaines localités du pays, une véritable guérilla urbaine s'est installée depuis l'annonce du verdict. Les militants de l'opposant Ousmane Sonko estimant que même si leur leader a été blanchi pour viol et menace de mort, sa condamnation pour 2 ans ferme n'est qu'un subterfuge pour l'éliminer politiquement. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République centrafricaine, la convocation d'un référendum constitutionnel le 30 juillet prochain divise. Alors que le parti au pouvoir, le MCU, et ses alliés se réjouissent de cette annonce, l'opposition politique promet de faire barrage à ce projet. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Alors que tous les yeux sont rivés sur l'organisation des élections locales prévues le 16 juillet prochain, le président Faustin Archange Touadéra a fait une sortie surprise ce 30 mai. Le chef de l'État a annoncé, dans une adresse à la nation, la tenue d'un référendum constitutionnel le 30 juillet.
J'ai donc décidé, après consultation du président de la Cour constitutionnelle et du président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 90 de la Constitution du 30 mars 2016 et l'article 2 de la loi du 13 janvier 2023 fixant les procédures du référendum en République centrafricaine, de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine.
Quelques heures seulement après cette annonce, un décret convoque le corps électoral. Tout le pays se réveille, des réactions affluent de partout. Le MCU, parti du président Touadéra et ses alliés, se réjouissent de cette annonce et expriment leur soutien à travers une grande marche ce mercredi à Bangui. Arthur Bertrand Piri, ministre de l'énergie et troisième secrétaire général du MCU.
Aujourd'hui, la population est venue massivement pour remercier le président d'avoir répondu à sa préoccupation. En tout cas, les mots me manquent pour exprimer exactement, mais je ne peux que féliciter, rendre hommage à ce peuple qui s'est levé comme un seul homme pour demander la réécriture d'une nouvelle constitution et qui est venu aujourd'hui massivement pour remercier son président.
Si les partisans du pouvoir se réjouissent de la convocation de ce référendum, dans le rang de l'opposition, c'est l'exaspération. Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC, promet de faire échec à ce projet. Nicolas Tsangay, ancien Premier ministre et membre du BRDC.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est la survie d'un peuple. C'est à ce peuple de prendre ses responsabilités. Nous, en tant que leaders, nous allons indiquer la voie à suivre. C'est le peuple qui doit dire que Touadéra, après avoir liquidé les acquis démocratiques, en train de préparer aujourd'hui un coup d'État constitutionnel. Est-ce que le peuple centrafricain accepte un coup d'État constitutionnel? Oui ou non? Nous allons demander à ce peuple-là de prendre ses responsabilités. Nous allons organiser les manifestations qui sont prévues par la loi. Nous restons dans le cadre du respect de la légalité pour s'opposer à ce pseudo-référendum.
La société civile, qui observe de près la situation, s'étonne de ce virage inattendu alors que tout le monde se préparait à aller aux élections locales dont les dernières ont eu lieu il y a 35 ans. Frédéric Nakombo, membre du réseau Arc-en-Ciel, une plateforme de la société civile travaillant sur les élections.
Notre position, c'est quoi? C'est que pour nous, nous ne sommes pas contre la tenue du référendum constitutionnel. Nous voudrions à ce qu'on accorde une priorité ou une importance capitale aux élections locales. Le programme des élections locales primait sur le référendum. Et aujourd'hui, on est en train de constater que c'est le contraire.
Le top est donné par le président Faustin Archange Touadéra, mais la majorité des centrafricains s'interrogent encore sur la source de financement de ce scrutin au moment où le gouvernement fait face à une tension de trésorerie. Fimansi Pila Bongui pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Bénin, même si la fracture numérique entre hommes et femmes reste un défi à relever, certaines béninoises avec beaucoup d'audace s'incrustent de plus en plus dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et arrivent même à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas d'Esther Idrissou, initiatrice de la plateforme AgriYouth. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, l'a rencontrée. Voici son portrait.
Avec une licence en journalisme, Esther Idrissou est blogueuse. En 2014, elle a créé AgriYouth, une plateforme dédiée à la promotion de l'agriculture. Mais comment est née cette passion?
Après ma formation en journalisme, j'ai compris qu'il fallait me spécialiser. Donc, j'ai créé le site AgriYouth. Ensuite, d'année en année, d'expérience en expérience, aujourd'hui, AgriYouth est une plateforme média qui publie des articles, des podcasts et contribuer à la formation des jeunes dans l'agroalimentaire, l'entrepreneuriat agricole, l'entrepreneuriat vert. Donc nous faisons partie de plusieurs réseaux dont le réseau Agro Bootcamp où nous formons des jeunes dans l'agroécologie. Tout ça contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable.
AgriYouth est un label qui en 9 ans a réussi à convaincre la jeunesse béninoise.
La vision de AgriYouth, c'est d'augmenter l'attractivité de l'entreprise agricole, surtout portée par la jeunesse. L'agriculture est un domaine qui n'attire pas forcément la jeune génération. Nous faisons en sorte d'inspirer et de former justement une nouvelle génération de jeunes.
Âgée de 30 ans, elle confie comment elle a pu s'incruster dans le secteur dominé par les hommes.
Il a fallu vraiment être à l'affût de l'information. D'ailleurs, le digital est comme ça. Il faut vraiment pousser, aller vers l'information, ne pas rester dans son coin. Dès qu'il y a une formation, ne pas hésiter. Ne pas également hésiter à suivre des formations en ligne, à s'auto-former. Moi, je suis assez autodidacte et c'est comme ça que j'ai pu vraiment acquérir des compétences qui m'ont permis en fait de me positionner également dans ce domaine où généralement les hommes sont plus prépondérants.
Pour en arriver à ce point de renommée, elle a dû certainement affronter d'énormes difficultés.
Compliqué de mieux se positionner dans un environnement où on ne vous voit pas forcément, mais de plus en plus, il y a des actions et des projets qui viennent donner de la visibilité à la femme. Et il y a notamment la Women in Tech aujourd'hui, où je suis secrétaire générale, qui fait la promotion et qui conduit à la réduction de la fracture du genre au niveau du numérique. Donc la Women in Tech favorise justement ce positionnement-là des femmes. Donc, de plus en plus, ces difficultés sont en train d'être levées.
Même si le gouvernement investit pour favoriser l'insertion des femmes dans le secteur, la disponibilité de l'électricité, la qualité et le coût de la connexion Internet, ainsi que la méconnaissance des opportunités d'emploi qu'offre le numérique, sont autant de facteurs qui limitent l'accès des femmes au monde des TIC, plus particulièrement dans le monde rural. De Cotonou, c'est notre choix d'André pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le gouvernement kenyan affirme avoir conclu ou prévoit de conclure des accords avec le Canada, l'Allemagne, les États-Unis et certains pays du Golfe Persique, avec pour objectif de faciliter l'emploi des Kenyans à l'étranger. Cependant, les défenseurs des droits des travailleurs estiment que de tels accords, en particulier avec les pays du Golfe, laissent nombre de travailleurs vulnérables à l'exploitation et aux abus. De Nairobi, le reportage de Mohamed Youssouf, récit Jacques Aristide.
Quelques 750 000 Kenyans qui ne parviennent pas à trouver du travail dans leur pays veulent tenter leur chance à l'étranger. En vue de réduire le chômage, le gouvernement prévoit de paraffer au moins 10 accords bilatéraux portant sur l'emploi, indique Jeffrey Kaituko du département kenyan du travail.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Les gens se déplacent constamment. C'est pourquoi le gouvernement du Kenya donne la priorité à la migration de la main-d'œuvre, à la mobilité du travail.
Plus de 170 000 Kenyans sont partis travailler dans la région du Golfe. Près de la moitié d'entre eux sont des employés de maison. Cécilia Wanjiku met le cap sur l'Arabie Saoudite, où elle va être employée comme femme de ménage.
And since I cannot acquire a good job in Kenya,
comme je ne peux pas trouver un bon emploi ici au Kenya, j'ai décidé d'aller en Arabie Saoudite, loin de mon pays, pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille.
Le Kenya a empoché environ 4 milliards de dollars à partir des transferts d'argent effectués par ses citoyens à l'étranger en 2022, un chiffre que le gouvernement veut tripler grâce à ses nouveaux accords. Des défenseurs des droits des travailleurs affirment toutefois que le désespoir de partir trouver du travail dans d'autres pays ouvre la voie aux abus de la part des employeurs à l'étranger. En 2021, 41 Kenyans sont morts sur leur lieu de travail en Arabie Saoudite. Les agences de recrutement au Kenya sont accusées de ne pas faire assez pour protéger les travailleurs. Peace Mutiu de la Sanda Global Agencies à Nairobi indique que bon nombre de jeunes femmes qu'elle a envoyées à l'étranger ont eu des problèmes avec leurs employeurs.
Au cours des deux dernières années, j'ai défendu 26 jeunes filles. 10 se sont revenues dans le pays, 16 ont changé d'employeur et cela m'a affecté.
Peace Mutiu ajoute que les agents saoudiens ont bloqué son accès au système qui répertorie les opportunités d'emploi pour les Kenyans. Faith Shimila est rentrée au Kenya en 2021 après avoir travaillé pendant un an et demi en Arabie Saoudite où elle a été victime de graves abus, dit-elle.
I used to work 18 to 19 hours, no medication, no resting hours.
Je travaillais jusqu'à 19 heures par jour sans médicaments, sans heure de repos, sans congé, sans pause. J'étais nourrie de restes et je dormais dans un endroit misérable. J'ai été violée pendant tout ce temps. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai été violée en Arabie Saoudite. J'ai été violée à de nombreuses reprises par cet employeur.
L'avocat John Mwariri, qui représente Chimila et 12 autres personnes, accuse le gouvernement kényan d'avoir failli à les protéger.
Even in times of abuse,
même en cas de mauvais traitement, la plupart de ces victimes appellent le gouvernement à l'aide, mais le gouvernement n'apporte aucune assistance.
D'après le gouvernement kényan, les accords bilatéraux avec les pays du Golfe offriront des protections aux travailleurs contre toute forme d'abus, mais les critiques demeurent sceptiques.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.